carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Le nom de Félix Ziem est attaché au monde de la peinture du XIXe siècle, au voyage d'Orient comme au paysage de l'école de Barbizon ou encore ceux de Provence. Ziem séjourna à Martigues et fit don à la ville de ses collections pour un musée qui porta d'emblée son nom, il y a un peu plus de 100 ans, en 1908, 2 ans avant sa mort. Son œuvre ne s'intègre à aucune école et il ne fut chef d'aucun mouvement pictural. Comblé d'honneur de son vivant, ses œuvres sont entrées au Louvre en 1910, quelques mois avant sa mort. Félix Ziem est à la fois un peintre d'Orient et d'Occident. Son œuvre évoque Fontainebleau, la Normandie, Martigues, Marseille, Venise, Istanbul, Damas ou le Caire. Il a croisé Van Gogh ou Théodore Rousseau, Eugène Boudin, s'était lié d'amitié avec Rodin. Dans le cadre de la saison turque, le musée Ziem de Martigues a consacré une exposition d'octobre 2009 à janvier 2010 à l'Orient turc de Ziem et de ses contemporains, de Marseille à Istanbul. Comment Ziem a-t-il transposé dans son œuvre son émerveillement et sa fascination de l'Orient ? Pour ce voyage, retrouvons à Martigues devant l'étoile du peintre Frédéric Hitzel, commissaire de cette exposition et chargé de recherche au CNRS, et tout de suite Lucienne Delfuria, conservateur en chef du musée Ziem de Martigues, qui nous a ouvert les portes du musée. Lucienne Delfuria, vous êtes conservatrice en chef du musée Ziem à Martigues, où a lieu justement l'exposition de Marseille à Istanbul. Comment est né ce musée et d'où viennent les collections justement de Ziem que vous possédez ici ?
Donc en fait, le musée a été créé par la municipalité en 1908 pour rendre hommage à Félix Ziem, qui était un peintre reconnu et apprécié de son vivant. Il est mort en 1911, donc il était encore vivant quand le musée a été créé, même s'il était évidemment très âgé puisqu'il est mort à 90 ans. Et la municipalité souhaitait rendre hommage à ce peintre qui est venu installer un atelier à Martigues en 1860. Et il était très apprécié aussi de ses collègues peintres provençaux et la municipalité a souhaité donc leur rendre hommage et a fait appel à un certain nombre de peintres, a fait appel aux dons afin de créer ce musée. Donc le premier fonds constitutif du musée, ce sont soit des dons d'artistes peintres, mais également des œuvres offertes par Félix Ziem lui-même à la ville. Et puis ensuite, ce musée a évolué puisque parallèlement a été créé un musée d'art et tradition populaire. Et les deux établissements ont fusionné en 1978, alors que dans le courant des années 60, étaient venus aussi alimenter le fonds permanent les premières fouilles archéologiques qui avaient eu lieu sur la commune. Donc aujourd'hui, le musée Ziem est constitué d'un fonds beaux-arts, de collections archéologiques. Et à partir des années 75, les différents conservateurs ont également développé une section art contemporain.
Un musée très complet. Et sur les œuvres de Ziem, sur le fond que vous avez, quelle est sa particularité ?
Ce qui est très très intéressant au musée Ziem, c'est que nous avons la chance d'avoir hérité du fonds d'atelier de l'artiste, donc en 1993. Donc en fait, avec ce fonds d'atelier, sont arrivées dans les collections publiques françaises des œuvres de Ziem, en particulier toute la partie graphique qui était absolument inconnue puisqu'il n'exposait pas ses dessins. Donc, qui ont été révélés au public.
C'est-à-dire des dessins, des encres, des pastels, qu'est-ce que c'est ?
Alors, il exposait en fait ses aquarelles, mais il n'exposait pas ses dessins. Ça faisait partie des éléments considérés comme mineurs et puis utilisés dans son travail en tant que réflexion, mais pas comme des œuvres à part entière. Et donc, en fait, on a découvert avec ce fonds d'atelier un très très grand dessinateur. Et effectivement, une des premières publications qui a été réalisée par le musée, ça a été l'œuvre graphique de Félix Ziem, qui a vraiment donné une image de lui, qui était une image inconnue. Et parallèlement, au niveau de ses huiles, ce qui était très intéressant de voir, c'est que Ziem avait une production connue qui était une production commerciale, mais que parallèlement, il avait toute une réflexion au niveau pictural d'huiles qui n'étaient là aussi pas commercialisées. En fait, une grande liberté dans ses œuvres qui étaient proches de la recherche, en fait. Il était plus dans la quête d'une marine idéale, comme il disait, et qui sont d'une facture beaucoup plus moderne et beaucoup plus libre que ses œuvres commercialisées et plus académiques.
Alors, quelle serait par exemple une œuvre maîtresse ou un titre de tableau inconnu pour ceux qui connaissent de Ziem, ses peintures de harem, on va dire, ou de ses vues du Bosphore ? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, nous qui ne connaissons pas le musée de Martigues ?
Une des œuvres qui est très caractéristique de ce fonds d'atelier et beaucoup moins de son approche traditionnelle, ce serait la fête de l'Assomption, qui est un tableau d'une fête de l'Assomption à Venise, où on est très très proche. Enfin, quand on la voit, on pense beaucoup à la rue Montorgueil de Monet, par exemple, ou au 14 juillet de Van Gogh, dans les couleurs, également dans la facture. Donc, on est quand même très loin des œuvres de Ziem qu'on connaît, quoi.
Ziem a rencontré Van Gogh, non?
Oui, parce qu'en fait, Ziem avait un atelier rue Lepic, et le frère de Vincent Van Gogh, donc Théo Van Gogh, était rue Lepic. Et donc, Van Gogh, en allant voir son frère, a eu connaissance des œuvres de Ziem. Et Van Gogh était admiratif, en particulier du bleu, ce qu'il appelait le bleu de Ziem, et se plaignait, disant qu'il n'arriverait jamais à faire un bleu comme Ziem.
Dans l'exposition de Marseille et Istanbul, il y a des œuvres de la collection du musée qui sont présentées.
Oui, mais en fait, on a donné la priorité au prêt, évidemment. Donc, on a quelques œuvres du fonds permanent, et y compris des Ziem, mais après, effectivement, ce sont essentiellement des prêts.
Alors ma question était, je me suis mal exprimée en fait, ce que je voulais savoir, c'est si dans les œuvres qui sont présentées ici de la collection, est-ce que c'est des œuvres qui sont exposées d'habitude, habituellement, que le public voit, ou c'est des œuvres que vous avez sorties du fond ou...
En fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a la chance ou la malchance de ne pas avoir un espace d'exposition temporaire. Donc en fait, on renouvelle très très souvent les collections. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que, effectivement, même sur notre fonds permanent, on ne ressort jamais les mêmes œuvres. Ou en tout cas, si on ressort les mêmes œuvres, on essaye de développer à chaque fois une réflexion autour de l'œuvre de Ziem qui soit différente pour donner ou essayer de faire découvrir le travail de Ziem à chaque fois sous une facette différente. Donc, par exemple, cet été, nous avons exposé en majorité des Ziem dans le musée de notre fonds permanent. On avait axé la réflexion et la problématique sur la composition. Donc, comment Ziem composait ses œuvres et donc faire des rapprochements entre des œuvres, essayer de donner un autre éclairage sur son travail.
Quand l'exposition de Marseille à Istanbul va s'achever
le 10 janvier,
quels sont les prochains projets d'exposition du musée Ziem?
Donc, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir effectivement, bien sûr, Ziem est omniprésent dans le musée et à juste titre. Mais on a aussi des collections riches, variées, donc on essaie de développer toute une réflexion autour du fonds permanent. Majoritairement quand même, les collections Beaux-Arts sont des collections axées sur le paysage. Et donc en fait, ce qui nous intéresse, c'est l'année prochaine, on va justement avoir une réflexion autour du paysage. Donc on va commencer par avoir une exposition temporaire qui ira de février à mai 2010 sur Jean-Francis Aubertin, qui est un disciple de Puvis de Chavannes, qui est un peintre symboliste, qui était parisien d'origine alsacienne, qui était aussi un amoureux des littoraux, qui est quelqu'un qui est contemporain de Ziem, qui a peint la Normandie, qui a peint la Bretagne, qui a également peint la Méditerranée, mais ses œuvres en Méditerranée n'ont jamais été exposées. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de montrer à travers cette exposition comment deux peintres de la fin du 19e, du début du 20e appréhendent le paysage.
Donc vous nous donnez rendez-vous.
En début 2010.
Merci.
Merci à vous.
Frédéric Hitzel, qu'est-ce qui pousse les peintres à partir en Orient dans cette première moitié du 19e?
Alors la principale raison, c'est le développement des lignes maritimes. Il faut savoir qu'à partir des années 1830, la Méditerranée devient plus calme. N'oublions pas que le début du 19e siècle est marqué par la campagne d'Égypte des Français, d'autre part par la guerre d'indépendance de la Grèce, et puis après par la révolte de Mehmet Ali en Égypte. Et donc, à partir des années 1830, on va dire, la Méditerranée devient plus stable, il y a moins d'événements, moins de crises, et donc des lignes maritimes se mettent en place, notamment des lignes maritimes à partir de Marseille.
L'exposition dont vous êtes le commissaire au musée Ziem de Martigues, qui s'appelle « De Marseille à Istanbul, l'Orient turc de Ziem et de ses contemporains », est justement un voyage pour le visiteur, disons, à Martigues, mais un voyage dans le voyage, puisque c'est aussi l'Orient turc des voyageurs et des peintres voyageurs. C'est tout ce voyage en peinture, en photo, en affiche, avec les guides de l'époque que vous présentez, que vous avez organisé autour d'une idée centrale qui est
le voyage. Le voyage.
Donc pour embarquer votre visiteur dans cette exposition, on commence dans une première salle où sont exposées des affiches de voyage, des compagnies que vous venez d'évoquer. Qu'est-ce que vous avez voulu réunir dans cette première salle?
Alors dans cette première salle, j'ai voulu raconter le voyage tel qu'il se pratiquait au 19e siècle. Voyage d'ailleurs qui est peu différent de ce que les touristes encore de nos jours rencontrent, c'est-à-dire les problèmes de transport, les problèmes de passeport, les problèmes de guide. Lorsqu'on arrive dans une nouvelle ville, on a besoin de savoir où loger, quoi manger, quels sont les meilleurs restos, les meilleurs endroits où s'installer. Et donc, c'est une question pratique auxquelles sont confrontés donc tous les touristes. Et curieusement, on s'aperçoit que les préoccupations de l'époque sont finalement pas si éloignées de celles du touriste actuel, Donc, bien entendu, je l'ai appliqué à la ville d'Istanbul, hein, l'ancienne Constantinople, pour raconter donc comment on partait, que c'était un voyage quand même assez onéreux. On partait pas comme ça, donc ce qui explique que d'ailleurs beaucoup de peintres s'embarqueront dans des missions, soit scientifiques, soit historiques.
Oui, ils pouvaient louer leurs services pour financer leur voyage,
car le voyage reste cher, en tout cas jusque dans les années 1870, il reste cher. Donc on partait, de même que les hôtels dans lesquels on logeait à Istanbul étaient dans un premier temps des pensions, par la suite des hôtels, qui étaient quand même relativement coûteux.
Alors ce qu'on n'imagine peut-être pas, c'est qu'il y a un véritable tourisme à la fin du 19e, et entre 40 000 et 60 000 visiteurs à Istanbul. C'était une destination particulièrement prisée.
Oui, alors ce qu'on a tendance à oublier, c'est le rôle central que jouait Istanbul, surtout dans la seconde moitié du 19e siècle. N'oublions pas que Istanbul était une grande capitale, c'était encore la capitale de l'Empire ottoman, hein. Nous sommes encore à l'époque ottomane, la République de Turquie n'a pas été créée, puisqu'elle ne sera créée qu'en 1923, donc on est encore dans l'Empire ottoman, vaste empire qui s'étend des Balkans, en passant par la péninsule arabique, jusqu'en Afrique du Nord, donc on est encore à cette période très importante où la place d'Istanbul joue un rôle central. Et donc, effectivement, les voyageurs sont très nombreux, parce que c'est aussi une capitale qui draine énormément d'artistes, qui drainent beaucoup de commerçants, car c'est une capitale qui a une forte population, qui consomme, et donc qui a aussi beaucoup d'argent à faire. Parce que justement, beaucoup de gens vont en Orient avec l'idée de rapporter beaucoup d'argent, parce qu'on sait que lorsqu'on a du travail là-bas, on a des garanties. On a des garanties parce que l'Empire a des richesses en coton, en tabac, en mines, en minerais. Donc on a des garanties. Et donc beaucoup d'artistes, des architectes, hein, pour la construction de palais, de personnes qui veulent rénover, par exemple, la ville d'Istanbul, comme le baron Haussmann même va proposer ses services. Beaucoup de gens se rendent en Turquie, notamment à Istanbul. C'est un peu, je dirais, lorsqu'on va à New York. New York draine de nos jours toutes les populations qui veulent réussir. Et Istanbul, dans la seconde moitié du 19e siècle, c'était un peu ça. C'était un peu ça.
Donc une image très positive en termes d'Eldorado, de succès possible. Et puis le goût de l'époque aussi, avec les questions d'Orient, le contexte fait que peut-être le public est aussi au rendez-vous pour cette peinture, pour ces voyageurs, ces peintres voyageurs et ces touristes. C'est une destination, on dirait, aujourd'hui à la mode.
C'est une destination à la mode, surtout que, bon, on va dire, dans les années 1830, n'oublions pas que l'Algérie est conquise. Je veux dire, il y a la conquête française en Algérie, il y a ce goût, cet attrait pour l'Orient, vers le sud, on va dire, mais il se tourne aussi vers l'Est, vers Constantinople. Alors c'est là où il y a une grande déception, où il y a un grand décalage, c'est-à-dire que les gens qui se rendent à Constantinople espèrent retrouver ce qu'ils découvrent finalement en Afrique du Nord.
C'est-à-dire que l'influence de Delacroix est suffisante pour avoir éclipsé une vision propre de l'Orient ottoman, on va dire.
Il y a un peu de ça. Ce qu'on a tendance à oublier, c'est que la Turquie du 19e siècle est très tournée vers l'Europe. Et notamment à partir de 1839, se mettent en place des réformes sous l'égide des sultans. Réformes qui vont toucher notamment le costume. Notamment, l'armée ottomane va abandonner le vêtement à la longue et ainsi que le turban pour adopter la redingote et le fameux fez. Le fez qui donc est porté par tous les dignitaires ottomans. Et donc, il y a une réforme de l'uniforme, il y a une réforme dans l'armée, puisque dorénavant, toute personne, qu'elle soit musulmane ou non musulmane, devra faire le service militaire. Donc, il y a toutes sortes de réformes qui sont introduites sous la pression, bien entendu, des grandes puissances. Des grandes puissances qui menacent, en fait, l'intégrité de cet empire si des réformes ne sont pas introduites.
Et donc cet esprit des réformes et cette vitalité, même si on a toujours l'impression que l'Empire ottoman, c'est l'homme malade de l'Europe dans l'historiographie française, les peintres qui se sont rendus à Istanbul et dans ce qu'on appellerait aujourd'hui la Turquie, mais dans cette partie-là de l'Empire, ont-ils su saisir justement cette modernité dans leurs toiles ou dans leurs dessins?
Alors absolument pas. C'est-à-dire que quand ils arrivent à Istanbul, les artistes espèrent trouver de l'exotisme. Et cet exotisme, ma foi, ils sont très déçus. À commencer par le prince de Joinville, lorsqu'il arrive en 1839 avec l'escadre française. Et vous savez que le prince de Joinville était amateur de peinture, il était lui-même aquarelliste, puisqu'il avait été formé par d'autres artistes. Et donc, il est très déçu de voir où se trouve finalement cet Orient, puisque n'oublions pas, donc, comme je l'ai dit, il y a les réformes vestimentaires, mais il y a aussi les sultans qui donnent l'exemple en construisant des palais dans les années 1850, qui sont des palais sur les modèles d'Occident, modèle italien, modèle baroque. Et donc, ils sont très déçus. Alors finalement, cet Orient, où est-ce qu'ils vont le trouver? Ils vont le trouver finalement auprès des petites gens. Alors ces petites gens, ils vont le trouver soit dans les ports, dans le milieu des marins, on va dire, ou soit chez les commerçants, les petits commerçants. Pas les commerçants, bien entendu, du Grand Bazar, puisque ceux-là sont déjà très au fait des mœurs et coutumes de l'Occident. Mais davantage vers les petites gens, Et c'est ces personnages-là qu'ils vont dessiner, qu'ils vont reproduire dans leurs croquis. Et lorsqu'ils rentreront en Occident, c'est ces personnages-là qu'ils vont mettre sur leur toile.
Qu'ils vont intégrer dans leur composition.
Voilà, ils vont intégrer des personnages donc, très orientalisants dans leur composition.
Avec des turbans, c'est ça?
Des
costumes.
Voilà,
typiques.
Très caractéristiques. Alors c'est le turban, le vêtement à la longue avec la ceinture et souvent le poignard ou le cimetière à la ceinture. Les femmes sont toujours voilées avec des longues robes, avec parfois des socs aux pieds, des socs en bois. Et puis, très souvent, dans les scènes qui sont représentées, nous avons les personnages allongés de manière lascive, en train de fumer. Alors, fumer soit avec le narguilé, soit ce qu'on appelle le tchibouk, c'est-à-dire la pipe longue. Donc, ils sont dans des positions oisives, d'où l'expression « faire le kef », c'est-à-dire cette position allongée qui s'apparente un peu au farniente, mais qui est typiquement orientale, et en tout cas qui va désigner systématiquement les Turcs lorsqu'ils vont être peints par ces artistes au XIXe siècle.
Alors ces artistes, par exemple, vous parliez du tabac. Tout à l'heure, vous me disiez que le tabac et le café étaient vraiment les signes de la peinture orientalisante, sujet qu'on retrouvait vraiment. Donc dans quel tableau on voit ça?
On les voit notamment dans les peintures de Charles Labbé. Charles Labbé qui a fait un voyage dans les années 1850 à Istanbul aux côtés de Charles Garnier, le constructeur du palais Garnier, et donc qui peint ces personnages sur le Bosphore, dans un très beau tableau. Donc ces personnages sont souvent allongés, ils sont assis sur des petits tabourets, ils tiennent souvent à la main donc soit un tchoubouk, c'est-à-dire la pipe longue, soit le tuyau d'un narguilé, et ils tiennent dans l'autre main très souvent une tasse de café, puisque le thé n'est pas encore développé comme c'est le cas de nos jours. Et fameux café avec ce fort marc de café dans lequel les bohémiens lisent l'avenir dans le marc de café. Donc c'est surtout dans le tableau de Charles Labbé qui est conservé au musée d'art et d'archéologie de Périgord.
Ouais, c'est de Charles Labbé, le Kief, repos du vendredi sur la rive asiatique du Bosphore à Constantinople, qui illustre bien les propos qu'on vient de tenir. Qui recherchent un Orient ou un voyage très pittoresque, des petites scènes pittoresques. Dans l'exposition, une fois qu'on a embarqué sur les bateaux, par les chemins de fer, l'Orient Express, dont on voit de magnifiques affiches que vous avez sélectionnées pour montrer ce voyage, vous avez eu l'idée d'exposer des photographies du 19e siècle et de les mettre en rapport avec le choix des peintures des peintres dits orientalistes. Que vous exposez, qui sont donc
Charles Labbé, Fabius Brest, Charles de Tournemine, Camille Rogier. Ils sont très nombreux au 19e siècle à venir à Istanbul.
Voilà, c'est un peu le voyage obligé, un petit peu comme autrefois il y avait le voyage en Italie, c'est la destination dont on parlait tout à l'heure.
Et là, on n'a parlé que des peintres, mais n'oublions pas qu'il y a aussi les écrivains, que ce
soit. Beaucoup d'écrivains, on va en parler après. Alors, vous avez sélectionné des photographies qui viennent d'une collection particulière, de la collection de Pierre de Gigord. Et qui sont des photographies faites par les frères...
Non, il y a les frères Abdullah, il y a Seba et Joyer, qui sont des artistes qui avaient des ateliers dans le quartier de Peral, ce fameux quartier européen situé au nord de la Corne d'Or. Et donc, c'était des photos qui étaient destinées aux touristes, essentiellement. Donc, c'est des photos qui, un peu sur le même modèle que la peinture, recherchent de l'exotisme. Donc, on retrouve des femmes dans les cimetières, on retrouve des hommes près des fontaines. On retrouve toujours des ânes ou des chiens avec des personnages habillés de guenilles, hein, parfois. Ce sont des thèmes, en fait, qu'on retrouve dans la peinture et qui sont souvent les ancêtres, en quelque sorte, de la carte postale, puisque la carte postale ne va apparaître qu'à la fin extrême du 19e siècle. Donc là, on est encore dans les années 1880. La photographie est quand même encore un objet de luxe. Et donc, ces photos étaient vendues à l'unité par les ateliers de photographie. Et donc, les voyageurs sont constitués des albums en fonction des lieux qu'ils visitaient.
Donc, alors, ce sont des photographies avant la carte postale, mais qui reflètent aussi un Orient encore chargé d'exotisme dans ce qu'on voit. Mais vous avez eu une démarche intéressante aussi, c'est-à-dire que dans certaines photographies, il y a des prises de vue d'Istanbul, qui montre des places qui n'ont rien à voir quand même avec certaines peintures, donc la peinture de...
Oui, de Charles Labbé ou de Fabius Brest, c'est la grande place de l'hippodrome de Fabius Brest.
Quelle démarche est la vôtre ? Pourquoi associer ces photographies et les peintures de ces peintres orientalisants ?
Alors c'est pour montrer que dans les années 1880, au moment où ces photographies sont vendues aux touristes, la Turquie est déjà tournée vers l'Occident. Et dans certaines photographies qui sont présentées en parallèle à ces photographies touristiques, on voit des personnages habillés avec la redingote, comme je le disais tout à l'heure, avec le fez, qui circulent dans les rues, et pas du tout des personnages tels qu'on les voit dans les albums photos de ces touristes, avec des turbans sur la tête. Et c'est pour montrer que, en fait, que ce soit la peinture ou la photographie qui est destinée aux touristes, et donc leur souvenir d'Orient, en fait c'est ça qu'on recherche. L'occidental recherche cet Orient. Je dirais, c'est un principe qui existe encore de nos jours. Je veux dire, on le voit bien à travers les photos de la guerre en Irak ou les photos de la guerre en Afghanistan. Je veux dire, on préfère présenter un pachtoun avec une kalachnikov plutôt qu'un personnage avec un téléphone portable habillé à l'occidental. Puisque ça renvoie pas justement à l'image qu'on a de l'Afghanistan, par exemple.
Exactement. Et là, donc, des peintres comme Fabius Brest vont intégrer dans leurs tableaux quelques chameaux, quelques narguilés, quelques scènes détentes au milieu d'une place. Et la même place, la place de l'hippodrome, si on regarde attentivement une photographie, on ne va pas voir ces personnages-là, au moins dans ces costumes-là.
Par exemple, pour vous donner une idée, il y a une très belle gravure de l'ambassadeur Choiseul Gouffier, réalisé en 1784 d'après un dessin de Jean-Baptiste Hilaire qui vous présente la place de l'Hippodrome. Vous la comparez avec la peinture de Fabius Brest qui est présentée dans cette exposition et qui présente la place de l'Hippodrome donc dans les années 1860, vous avez les mêmes thématiques. Vous avez les personnages en train de vendre des narguilés, vous avez d'autres personnages, bien entendu, habillés à l'oriental, en train de vendre des pastèques ou des oranges, des femmes avec l'habit à la longue, etc. Et puis bien entendu, dans le fond, il y a toujours des chameaux, des ânes et puis les éternels chiens d'Istanbul, qu'on voit partout traîner sur les peintures.
Pourquoi il y avait beaucoup de chiens à Istanbul ?
De tout temps, Istanbul a été infecté de chiens, ce qui posait d'ailleurs beaucoup de problèmes à la municipalité. Alors, ils étaient tolérés parce qu'ils nettoyaient notamment les rues, mais c'est vrai que régulièrement, il y avait des combats de chiens, et ça a frappé les Occidentaux de voir tous ces chiens dans les rues, ce qui explique que ces chiens sont souvent représentés dans des cartes postales ou en photographie. Mais n'oublions pas qu'en 1911, il y avait tellement de chiens que la municipalité d'Istanbul a décidé de s'en débarrasser et donc a ramassé tous les chiens qu'elle a pu dans la ville d'Istanbul pour les installer sur une des 7 îles de la mer de Marmara. Et ça a été une triste histoire, hein, puisqu'elle a laissé les chiens s'entre-dévorer et qu'à l'époque, ça a scandalisé la presse occidentale. Et notamment, on a des textes très alarmistes de Claude Farrère qui racontent le scandale de ces chiens qui s'entre-dévorent sur l'île d'Istanbul, alors qu'on sait que Claude Farrère était plutôt francophile. Hein. Oui. Mais là, pour le coup, il a été scandalisé comme d'autres écrivains de cette époque.
Parmi ces peintres voyageurs, il y en a un qui a vraiment eu beaucoup d'imagination sur cet exotisme pour le transcrire. En tout cas, c'est Auguste Mayer qui a laissé une vue du Bosphore animée de 1852 qui a l'air de vraiment pousser l'exotisme à fond. Vous pouvez nous décrire ce tableau ?
Donc Auguste Mayer a peint ce tableau en 1852. Donc Auguste Mayer qui est un peintre de marine de Brestois. Et donc dans cette peinture, il a mis un condensé de cet Orient tel qu'on l'imagine.
Voilà.
C'est-à-dire forcément il y a des minarets, hein, il y a des mosquées avec des longs minarets, il y a des fontaines, il y a des gens en train de fumer, il y a forcément des chameaux, hein, des chameaux et des ânes. Et puis, il y a ces femmes en train de prendre des bateaux, ces fameuses caïques, ces barques longues et effilées avec lesquelles on traversait le Bosphore. Et donc, c'est tout à fait le type de peinture plaisante qui plaisait au public français et aussi littéraire. Hein. Et notamment, un peintre comme Auguste Mayer était très apprécié d'écrivains comme Gérard de Nerval ou Théophile Gautier, par exemple.
Donc, la mosquée qu'on voit sur cette vue du Bosphore animée, c'est le titre du tableau, elle n'existe pas. Elle est surélevée, elle a une coupole, mais ce n'est pas Sainte-Sophie, on ne sait pas très bien si on est en Inde.
Elle ressemble un peu parce que la spécificité quand même des mosquées turques, c'est ces formes de minarets en forme de fusée qu'on retrouve tout à fait en Anatolie et puis dans certaines grandes villes qui ont appartenu à l'Empire ottoman, notamment au Caire. Et c'est vrai qu'on reconnaît un petit peu l'architecture, mais de là à définir la mosquée bleue ou d'autres mosquées, c'est très difficile puisque c'est souvent, il y a un fond d'origine, mais je veux dire, c'est très imagé quand même comme représentation.
Un peu exagéré.
Exagéré.
Or, il y a un peintre qui fait le succès du musée Ziem, puisque c'est son nom. Parmi ces peintres voyageurs, il faut évoquer le nom de Ziem, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. Quel est l'Orient de Ziem, justement ? Qu'est-ce qu'il va apporter par rapport à ces autres peintres ? Que vous qualifiez de peintre orientaliste, c'est ça ?
Déjà, pour remettre dans le contexte, Ziem découvre Istanbul en 1856. c'est-à-dire à la fin de la guerre de Crimée qui donc va opposer la France, l'Angleterre et la Turquie contre la Russie entre 1854 et 1856. Donc c'est une période où on a beaucoup parlé de l'Orient, puisque c'est la première guerre où la France va perdre pas mal de boys, hein, en Crimée notamment, à Sébastopol et dans d'autres conflits. Et donc c'est une guerre qui a été énormément parcourue par des journalistes et des peintres, puisqu'on est au début de la photographie. Et donc Ziem arrive à peu près au moment où justement le traité de Paris vient d'être conclu, qui marque la fin du conflit. Et Ziem donc arrive, il est déjà connu, hein. C'est un artiste qui a déjà beaucoup de succès. Il avait rêvé déjà depuis longtemps d'aller à Istanbul, et là enfin il a pu y aller. Et donc l'Orient qu'il découvre n'est pas cet exotisme justement qu'il espérait, d'où justement l'idée de retrouver cet exotisme chez les petites gens. Donc il va faire beaucoup de dessins, c'est un très très grand artiste qui va remplir plusieurs carnets de croquis des petites gens, notamment le monde des marins, parce que Ziem adore le monde de la marine, et donc il y a beaucoup de représentations de ses voiliers, de ses personnages à bord de barques, de caïques, et donc c'est des thématiques qu'on retrouve très souvent dans son œuvre. À son retour, il va travailler ses personnages, donc croqués dans ses carnets, sur des toiles. Et ce qu'il recherche, lui, c'est la lumière. Ziem recherche la lumière. C'est une recherche qu'il avait déjà eue, hein, bien avant. Il l'avait découverte avec Venise. Et ce qu'il a découvert à Venise...
Les deux grandes villes qu'il a peintes, qu'on lui connaît, ce sont des villes d'eau, c'est Venise et Istanbul.
Voilà. Et donc, il va reproduire, en fait, ce qu'il avait découvert à Venise sur Istanbul. Il va transposer. Sauf qu'au lieu d'avoir la place Saint-Marc, vous avez Sainte-Sophie ou la Mosquée Bleue. Au lieu d'avoir les gondoles, vous avez les caïques. Et donc, c'est la couleur qu'il recherche. Et c'est des couleurs très chatoyantes, très vives. Des couleurs qui font pif-paf, comme on dit, qui sont très agréables à l'œil. Mais si vous voulez, c'est pas, on n'est plus dans une quête d'Orient orientaliste. Là, on n'est plus du tout dans l'orientalisme, on est davantage dans une quête de couleurs et d'impressions. Et c'est ça que reproduit sur la toile Félix Ziem.
Et qui a eu beaucoup de succès de son vivant, il a été couvert d'honneur, il répondait aussi à une attente du public. Est-ce que Ziem, par exemple, a été influencé par la photographie naissante à cette époque, justement? Est-ce que c'est peut-être ça qui l'a orienté vers la couleur, ou est-ce que c'est vraiment sa recherche de peintre qui l'a orienté à développer ce monde de la couleur et des impressions? Est-ce que c'est de la peinture de paysage ou c'est autre chose?
Ah non, c'est de la peinture plus liée au monde de la mer. C'est surtout des marines avec beaucoup de couleurs, comme je l'ai dit, mais c'est pas quelqu'un qui recherche... En quelque sorte, il va se répéter au bout d'un moment. Il va mettre au point, on va dire, cette technique de couleur, justement, ses fondus, ses ondés, etc. Il a tendance à se répéter, à tel point que parfois, on lui a reproché, justement, de mélanger les thématiques entre Venise et Istanbul. Il y a des très fortes ressemblances. Même sur certains tableaux, on se demande presque, est-ce qu'on est à Venise ou est-ce qu'on est à Istanbul?
La Corne d'Or, ça a été une grande source d'inspiration pour tous ces artistes. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce quartier? La vue qu'il pouvait avoir de là, c'était quoi?
Alors c'est vrai que Istanbul, il faut savoir que c'est une ville merveilleuse, hein, encore de nos jours. C'est la seule ville qui est entre deux continents, comme on dit, entre l'Europe et l'Asie. Donc c'est ce Bosphore qui sépare les deux continents et que les gens empruntent tous les jours, hein, de nos jours, notamment parce qu'il existe deux ponts maintenant, alors qu'à l'époque on se déplaçait qu'en caïque. Et il y a cette Corne d'Or qui est une sorte de fjord naturel, qui est exceptionnel puisque non seulement il permettait à l'époque aux bateaux à voile de trouver refuge en cas de tempête, c'est un endroit très très abrité des vents et avec un très très fort tirant d'eau, ce qui permettait aux navires d'approcher très près de la côte pour permettre le déchargement. Et donc c'est de tout temps, hein, je veux dire depuis Byzance, que le port d'Istanbul, d'où le terme Corne d'Or, a été privilégié. Et alors ça a fasciné les artistes parce que c'est un endroit un peu magique. C'est vrai que lorsque vous regardez notamment ce qu'on appelle la Pointe du Sérail, là où se trouve le palais de Topkapı, et juste à côté la Sainte-Sophie et la Mosquée Bleue, hein, Sainte-Sophie, bâtiment du 7e siècle, et Mosquée Bleue, début du 17e siècle, vous êtes fasciné par ces minarets. Il faut imaginer qu'à l'époque, notamment, on arrivait surtout en bateau. Et lorsqu'on arrivait au petit matin, au bateau, et que la brume se levait, et qu'on découvrait ces immenses mosquées, hein, qui fascinent encore de nos jours, on était émerveillés. Parce que n'oublions pas que ce sont des très très gros bâtiments. Pour vous donner une idée, Sainte-Sophie a été la plus grosse coupole jusqu'au 16e siècle, jusqu'à la construction de Saint-Pierre de Rome. Et donc c'est une coupole qui a fasciné les architectes, les voyageurs, et encore de nos jours, lorsque vous rentrez dans Sainte-Sophie, vous êtes fasciné par les dimensions, si vous voulez.
Après la peinture, on va dire un peu impressionniste et symboliste de Félix Ziem, d'autres peintres évidemment continuent de se rendre à Istanbul. Que ce soit Édouard Jacques Dufeu, mais qui est considéré un peu comme un peintre secondaire, mineur. On a des peintres qui vont donner une autre vision encore de cet Orient, mais cette fois beaucoup plus éloignée de l'orientalisme. C'est peut-être plus une peinture orientaliste. C'est ça que vous avez voulu nous montrer en sélectionnant des peintures d'Émile Bernard ?
Oui, à l'origine, j'avais sélectionné un ensemble de peintures d'artistes qui vont à Istanbul découvrir autre chose. J'avais pensé, bien entendu, à Émile Bernard.
Alors, on est sur la fin du 19e, quand même.
J'avais pensé à Paul Signac. Alors, Émile Bernard vient à Istanbul en 1893, Paul Signac en 1910. Après la Première Guerre mondiale, vous avez aussi Maurice Denis. Donc, je voulais montrer que Istanbul est une source d'inspiration pour des artistes qui ne viennent plus justement chercher de l'Orient, de l'orientalisme, mais qui sont en quête de couleurs ou d'impressions. Et c'est le cas, donc, dans cette exposition d'Émile Bernard. Parce que, rappelons le contexte, Émile Bernard, qui était proche de Paul Gauguin, dont il a suivi les cours à Pont-Aven, a développé ce qu'on appelle le synthétisme, cette façon de cloisonner les couleurs. Justement, peinture dont serait inspiré son aîné, hein, Paul Gauguin, qui était de 20 ans son aîné, hein, d'où la rupture. Les deux personnages ont travaillé ensemble, et après ça, ça a été la rupture. Gauguin décidant de partir à ce moment-là pour les îles Marquises, et Émile Bernard, qui avait le soutien d'ailleurs de Van Gogh, décide de partir pour l'Orient. Et il va effectivement s'installer au Caire pendant une dizaine d'années, mais en se rendant au Caire, il fait une escale en Turquie, et notamment à Constantinople, où il reste quelques mois, et il va réaliser donc des très belles aquarelles et dessins qu'il va envoyer d'ailleurs à sa mère, parce qu'il était fier, mais il ne voulait pas non plus les vendre, parce que c'était une autre approche de la peinture. Et donc c'est ces aquarelles et peintures qui sont de nos jours conservées dans une collection privée, qui nous ont été très gentiment prêtées, qui sont exposées pour la première fois dans une exposition et qui montrent justement une approche différente donc de l'Orient. Et notamment on retrouve cette école de Pont-Aven à travers les peintures, notamment dans les couleurs, ces aplats, qui sont très proches aussi du style un peu japonisant, qui ont marqué, on va dire, l'école de Pont-Aven à la fin du 19e siècle.
Donc là, on pourrait citer le tableau de Souvenirs de Constantinople de 1894 d'Émile Bernard. Effectivement, c'est le personnage aussi central de cette femme qui tient un enfant, qui domine et pas tellement ce qui est autour, en fait. Ce qu'on voit, c'est plutôt le...
On est attiré par les couleurs des vêtements. Parce que ce qui fait la beauté, alors on retrouve des femmes qui ont un peu cet air nostalgique et mystique, un peu comme on retrouve
chez
dans
Maurice
les,
Denis,
les
Bretons.
Oui, chez Maurice Denis aussi.
Et puis, chez les Bretonnes,
aussi...
vous dites.
Voilà, ça fait penser un peu aux Bretonnes aussi, en deuil, qui ont été peintes par d'autres artistes comme Paul Sérusier et d'autres, de l'école de Pont-Aven. Et on retrouve donc ces femmes, sauf que ce qui fait l'Orient, on va dire, c'est leurs vêtements longs, très colorés, et ce qui fait la spécificité justement de cette école.
Donc là, dans ce long voyage de Marseille à Istanbul, qui s'achève avec la sélection d'Émile Bernard.
Oui, puisque après ça, bon, il y a d'autres artistes. On devait finir par un artiste majeur, on va
dire. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de terminer sur Émile Bernard ?
En fait, de façon plus générale, je voulais finir par Émile Bernard pour justement montrer qu'on finissait sur d'autres impressions de l'Orient. Mais bien entendu, c'est une réflexion beaucoup plus large que je voulais ouvrir sur ce que finalement les gens pensent de la Turquie, puisque nous sommes, rappelons-le, dans le cadre de la saison turque. Puisque moi-même, lorsque je vais à Istanbul, je suis toujours étonné par des gens qui me font la réflexion. Mais pourquoi on n'écrit plus en arabe à Istanbul ? Où est l'Orient ? Certaines personnes arrivent à Istanbul en cherchant l'Orient. Et cet Orient, ils ne le trouvent pas, puisque Istanbul, n'oublions pas, devient une grande mégapole très européenne, qui possède les mêmes boutiques que Madrid, Berlin, Paris. Et c'est cet Orient-là, je leur dis, cet Orient-là, vous savez, il était déjà pratiquement perdu dans la seconde moitié du 19e siècle, à l'époque déjà où des peintres comme Félix Sixième, Fabius Brest et d'autres venaient à Istanbul. Et malheureusement, ou heureusement, on vit encore dans cet imaginaire. Et certaines personnes se contentent encore de cet imaginaire, mais il faut bien se rendre compte que la Turquie maintenant est un pays très moderne, tourné vers l'Occident, et que ces images de nostalgie qui leur collent à la peau, hein, je veux dire, elles peuvent servir encore à développer le tourisme, mais je veux dire, quand on va en Turquie, il faut s'attendre à autre chose que des très belles peintures, comme on a pu le voir dans cette exposition.
Merci beaucoup Frédéric Hitzel.
Merci à vous.
Vous venez d'entendre Frédéric Hitzel, chargé de recherche au CNRS et commissaire de l'exposition de Marseille à Istanbul, l'Orient turc de Ziem et de ses contemporains, une exposition du musée Félix Ziem de Martigues qui s'est déroulée d'octobre 2009 à janvier 2010. En début d'interview, vous avez entendu Lucienne Delfuria, conservateur en chef du musée Ziem de Martigues, qui nous a accueillis.